écran radiophonique que vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. sujet de vos relations que vous avez avec Madame Jeanne Forvigny et d'autres personnes très fortunées. » David lui répond, « Ce n'est qu'une amie, rien d'autre. » Le commissaire lui demande, « Comment vous vivez-vous ? » David lui répond, « Je m'occupe d'affaires dans l'immobilier. » Le commissaire demande, « Pourquoi Madame Jeanne Forvigny vous donne tant d'argent ?» David lui dit, « Parce qu'elle m'aime bien et que je la fais rire. » Le commissaire lui demande, « Et pour les autres, nous sommes renseignés. Vous étiez un peu violent avec elle. » David lui dit, « Il faut bien secouer les personnes du sexe pour qu'elles fassent quelque chose. » Le commissaire lui demande, « Quel intérêt a Jeanne Forvigny à vous donner tant d'argent ?» David lui dit, « C'est pour payer moins d'impôts, pour le fixe, et puis elle croit à mon avenir. » Le commissaire lui dit, « Bien, pour le moment je vous laisse partir, mais c'est pas fini. Nous allons examiner toutes vos factures et vos comptes. Alors faites attention. » Faites très attention. David se plaint à Jeanne. Tu te rends compte? L'on me surveille et l'on pense que je te fais chanter pour que tu me donnes de l'argent. Il faut que tu arrêtes ça. Jeanne lui dit, ne t'en fais pas. Alors, elle téléphone au ministre de l'Intérieur. Elle lui dit, je vous demande c'est de laisser David Zibouman tranquille. C'est un ami intime pour moi. Le ministre lui dit, malheureusement, madame, cette affaire est devenue politique, publique. On est obligé, c'est de faire quelque chose. Autrement, l'opposition dira qu'on ne fait rien, parce que vous êtes la femme la plus riche de France. Elle lui dit furieuse, on risque de trouver ce que l'on ne voudra pas que l'on trouve. Il lui dit, ne vous en faites pas, je surveille. Elle lui dit, si vos fonctionnaires trouvaient quelque chose, vous ne pourrez rien faire, parce qu'il dirait que vous avez forcé à cacher certaines choses. Il lui dit, pas de souci, madame, mais l'on continue l'enquête qui est mise en route. Et sans changer, ce sont des choses qui intéressent le public. Vous pensez, un grand ami d'une riche héritière qui lui donne plusieurs milliards, c'est comme si c'était son amant. Les gens vont avoir de quoi s'occuper et personne ne demandera une vraie enquête. Elle lui dit furieuse, « Mais je risque d'être déshonoré et ma vie bafouée. » Il lui dit, « Mais non, on trouvera très bien qu'une vieille femme ait pour amant un jeune qui pourrait être son petit-fils. Les féministes, droits de la femme, etc. vont être de votre côté et l'on dira que vous avez bien le droit de dépenser votre argent comme vous le voulez, surtout que vous avez donné leur part d'héritage à vos héritiers. Vous allez symboliser une femme libre. Toutes les femmes de votre âge vont vous envier de pouvoir faire ça, avoir un amant que l'on a le droit d'aimer à n'importe quel âge et faire des folies pour la personne que l'on aime, etc., etc. » Elle lui dit, « Mais c'est faux tout ça. Je n'ai pas d'amant. » Le ministre lui dit, « Qu'importe, on va le croire. Et ça va vous donner une bonne réputation et vous faire la publicité pour vos produits. Vous pourrez même inventer un nouveau produit pour les femmes de votre âge, pour qu'elles puissent séduire les jeunes hommes. » C'est ce qui se passe dans les médias populaires. Les gens se passionnent pour cette femme qui est tombée amoureuse et qui comble de cadeaux ce jeune homme, surtout une femme de cet âge. On compatit pour elle et trouve qu'elle a raison de dépenser son argent comme elle veut, surtout qu'elle ne déshonore pas sa famille. Mais malheureusement, certains journaux gauchistes, il y en a énormément, en cherchant bien dans l'histoire de la famille, trouvent le passé trouble du mari de Jeanne et se demandent si cette histoire ne cache pas autre chose. Les femmes qui ont connu David parlent aux médias et sont reçues dans tous les plateaux télévisés, dans les radios, et reçoivent les journalistes pour les journaux. Elles sont toutes heureuses d'être sur le devant de la scène et font tout pour être le mieux possible. Ça intéresse énormément de gens qu'elles parlent de la violence de David et de ses besoins d'argent. Désormais, les gens plaignent ces pauvres femmes milliardaires qui sont seules, s'ennuient, sont obligées pour se distraire de se payer chèrement un gigolo. Ah, les pauvres femmes milliardaires, nous les femmes modestes n'avons pas à nous payer des gigolos. Les jeunes viennent à nous simplement. Mais les pauvres femmes, etc., etc. Mais les gauchistes, aidés par les journaux gauchistes, bien entendu, manifestent pour demander l'égalité des peines et pas de privilèges pour la loi et que la loi soit pour tous. Certains profitent pour aller à ces manifestations et demander la vérité de cette famille Forbini qui a un passé très trouble. Cette affaire devient une affaire politique. Les lettres continuent et parlent des idées politiques du mari, de Jeanne et d'une certaine caisse noire qui sert pour les partis politiques et même peut-être pendant la guerre. Où est passé l'argent des nazis? Pourquoi à la libération tant de collaborateurs ont-ils été embauchés par le groupe Forbini comme François Mitterrand? Albert qui voit tout ça veut tout vendre. Profiter pour demander de mettre en tutelle sa mère aussi. Il en parle au ministre de l'Intérieur, qui en parle au président de la République. Regarde,
tu portes mon nom.
Le président de la République lui dit : ce serait peut-être une bonne solution pour étouffer l'affaire. Albert dit à sa femme, ceci risque de nuire beaucoup à la réputation de nos affaires et les ventes risquent de baisser et même la bourse. Il faut à tout prix que ma mère quitte le conseil d'administration. Jeanne reçoit encore une fois pour être examinée pour voir son état mental. Elle est furieuse, refuse, écrit qu'on l'a déjà fait et elle a les papiers. Albert va la voir pour la raisonner. Elle le reçoit furieuse dans son salon. Il lui dit, pour le bien de la société, il faut que tu démissionnes, parce que cette histoire risque de beaucoup nous nuire. Elle lui dit, je refuse.
On commence à croire que tu es un gigolo. Il faut que tu arrêtes de voir cette personne. Autrement, on porte plainte contre David Zibouman pour escroquerie qui cherche à ta fortune.
Elle lui dit, je refuse.
Il est furieux et s'en retourne.
Le jour où David vient la voir, elle lui dit « Il faut arrêter de venir à cause des ragots. » Lui fait
c'est celui qui est triste, mais il s'en fout. Il a Adrien et la secrétaire sur place. Adrien ne va plus au lycée. Il téléphone à la jeune fille pour le lui dire. Elle est triste et en parle à sa mère. Qui lui dit, il ne faut plus le revoir. Adrien se sent prisonnier. Il ne peut pas sortir. Ni. Même pas partir à cause des photographes. Un jour, les lettres ont cessé. Les journalistes, pour changer un peu de sujet, pour éviter que le public ne se lance, parlent de la peste. Toujours la peste. Ils écrivent aussi des articles sur la sécheresse. Malheureusement, certains journaux continuent à faire des articles sur la famille Forvigny, mais au lieu que ce soit en première page, c'est à l'intérieur du journal. Et font des recherches. Certains journalistes trouvent, en fouillant dans le dossier de police, après la guerre de 1945, les journaux disent des choses sur le mari de Jeanne. Ce qu'il a fait durant la guerre, sa collaboration, ses engagements pendant la guerre avec François Mitterrand et tant d'autres qui étaient membres d'extrême droite, de partis très violents, anti-républicains, comme la cagoule, etc., etc. Alors on parle du passé du mari. Et puis on fait des recherches aussi, grâce à des employés, aux impôts auxquels les journalistes paient grassement pour voir les déclarations d'impôts de Jeanne Forvigny. Et on s'aperçoit qu'elle n'a presque pas d'impôts, et ceci malgré tous les milliards qu'elle donne à David Zimmermann. Grâce aux domestiques qui ont été renvoyés, on parle dans les médias qu'elle reçoit beaucoup d'hommes politiques et elle donne en liquide des sommes très importantes à ces hommes. Cette histoire devient une histoire d'affaires d'État. On parle aussi de ce David Zimmermann, gigolo, qui fréquente des femmes très riches et les abandonne après leur faillite. On parle aussi, dans d'autres médias plus populaires, du drame tragique de la mort du fils de Jeanne et de sa femme dans un terrible accident de voiture où le bébé a été miraculeusement sauvé et que Jeanne a pris avec elle. Et qu'elle aime d'un grand amour. À cause de l'accident, le petit a des séquelles et un enfant fragile, souvent malade, mais qui adore sa grand-mère. Jeanne se bat pour son petit-fils pour qu'il puisse lui succéder. L'enfant devenu un bel adolescent au visage angélique qui se soigne et soigne sa grand-mère, lui étudie très bien et est bon élève. Jeanne l'aime davantage et le protège contre tous. Son seul souci est de s'occuper de son petit-fils. C'est même un devoir après la mort des parents du petit. Cette femme que l'on montre comme un monstre d'égoïsme a en réalité un corps d'or et sensible. Cela se voit comme elle s'occupe de son petit orphelin à la santé fragile. Un journaliste a réussi avec téléobjectif de photographier la grand-mère qui prend dans ses bras son petit-fils qui est dans un fauteuil de jardin et une autre photo où l'on voit le petit prince solitaire, un corps à prendre. En réalité, David, qui connaît un journaliste, a fait cet article et pour les photographies aussi pour redorer Jeanne et faire ressentir le côté humain de cette histoire, surtout pour les lecteurs, enfin surtout les lectrices, et faire centrer l'affaire sur Adrien qui a la chance d'être beau. On veut que les gens puissent oublier cette histoire, que les jeunes filles et les femmes puissent être sensibles à la beauté d'Andréa. Et ça marche. Toutes les jeunes filles découpent la photographie d'Andréa. Elles en sont folles. Jeanne est devenue la grand-mère au corps d'or et la mère au chagrin éternel. Alors les journaux, pendant quelque temps, montrent la chose comme ça, parce que c'est sûrement mieux. Albert est furieux et dit à sa femme, « C'est sûrement un coup fumant de ma mère. » Il va la voir. Mais elle refuse de le recevoir. Le président de la République dit au Premier ministre, « Vous voyez, les choses s'arrangent. Le peuple peut oublier le pourquoi de cette affaire. » Oui, et puis les gens ont trop de choses à s'occuper que d'histoires de riches. Il y a de plus en plus de monde qui sont dans la misère, une misère noire, le chômage qui est de plus en plus grand à cause de la sécheresse et aussi de cette maladie que l'on appelle la peste. Certaines personnes se regroupent pour manifester le matin, mais il y a peu de monde. On manifeste pour la peste, enfin la fin de la peste plutôt, la fin de la misère en règle générale. Malheureusement, la peste continue à faire des morts. Docteur Rambert dit à Elisabeth, c'est sûrement la peste, sûrement qu'elle va bientôt disparaître. Mais ce n'est pas la peste. Tous les matins, il va faire sa petite promenade. Les rues sont désertes et en pleine de poussière, toujours cette chaleur étouffante. Il pense à sa vie, se sent là et veut en finir avec la vie. Ce serait facile avec la pharmacie qu'il a à la clinique, mais se dit, je ne peux pas, je me dois m'y malade, même si je ne peux faire grand-chose pour eux, sauf leur venir en aide pour qu'ils puissent mourir paisiblement et dignement. Un matin, Adrien ne se sent pas bien et reste au lit. Il a de la fièvre et est faible. Lorsque Jeanne ne le voit pas pour le petit déjeuner, elle va frapper à la porte de sa chambre.
Entrez. Vois qu'il n'est pas bien.
Elle lui demande, qu'as-tu mon chéri? Il lui dit, je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai la fièvre. Elle panique et pense que c'est la peste. Elle lui demande, tu as la fièvre? Il lui dit, je pense que oui. Elle lui dit, je vais faire venir le médecin.
Thank you.
fait venir le médecin, le médecin de famille, le médecin l'ausculte.
Une fois qu'il est fini de l'ausculter, il est sorti de la chambre. La grand-mère était restée près de la porte.
Il lui dit, ce n'est pas la peste, il est fatigué, certainement à cause de la chaleur. Il lui faut un peu de repos. Elle lui dit,
je vous remercie, docteur. Je vous remercie.
Donc le docteur est parti. Elle va dire à Julien la bonne nouvelle.
Tu n'as pas la peste. Tu es simplement un peu fatigué. Repose-toi, mon chéri.
Adrien passe son temps à dormir. Le chauffeur prévient Albert de la maladie d'Adrien. Albert est heureux. Il se dit,
si ça pouvait être la peste, et s'il pouvait mourir. Mais non.
L'opposition politique, grâce à ses journaux, se déchaîne et parle d'argent donné illégalement au parti du gouvernement pour sa campagne et ses combines avec Jean Forvigny, et qui en plus paye très peu d'impôts. L'affaire est recentrée sur les biens de la famille avec le pouvoir politique. Mais la presse populaire continue sur Adrien et Jeanne. Un sondage est fait et demande aux jeunes filles quel est le garçon avec qui elles aimeraient sortir. À 80%, c'est Adrien. Adrien ne sait rien de tout ça. Il se rétablit petit à petit. Mais quelque chose d'étrange apparaît en lui. Il parle moins, a des gestes plus saccadés. Son regard vient de temps en temps méchant. Malgré lui, il se met à compter. 1, 2, 3, 4, etc. Mais ça ne dure pas. Jean le trouve affectueux. Une fois complètement rétabli, il tourne en rond et parle de voiture. Et se dit que c'est peut-être parce qu'il est resté trop longtemps enfermé. Il a des colères terribles lorsqu'on lui refuse quelque chose comme de sortir. Lui-même est surpris de son changement et ne comprend pas. Mais que lui arrive-t-il? Il ne fait plus rien. Après ses colères, il redevient comme il était. Le chauffeur en parle à Albert, qui se dit qu'il a peut-être une tumeur qui va vouloir fuguer. Il dit au chauffeur, laissez ouverte le portail et mettez une voiture en permanence avec de l'essence et la clé dessus. C'est ce que fait le chauffeur. La nouvelle secrétaire a remarqué ce que faisait le chauffeur et le dit à David. Il est surpris, lui dit, protégez-le, il ne doit en aucun cas sortir. On veut peut-être le faire sortir. Oui, on veut peut-être le faire sortir. Lorsqu'Adrien est dans le parc, le chauffeur lui sourit et lui dit, il fait beau temps pour faire une promenade en voiture, n'est-ce pas? Adrien ne répond pas. La femme d'Albert dit à son mari:
pour qu'Adrien se détache de Jeanne, il faut qu'il soit furieux contre elle. Il faut qu'on lui dise que c'est sa grand-mère qui a créé volontairement l'accident de ses parents.
Albert lui dit: mais il est déjà au courant de cette histoire d'accident, puisqu'on en parle.
Elle lui dit: tu n'as qu'à lui expliquer d'une façon plus explicite et lui prouver que Jeanne est vraiment responsable. Tu comprends?
Montrer l'horreur de la chose.
Un matin, Adrien trouve glissé sous sa porte de sa chambre un papier qui lui dit: ça raconte que c'est sa grand-mère qui a créé volontairement l'accident de ses parents. Il est furieux. Depuis sa maladie, il est devenu impulsif, violent. Il ne cherche plus vraiment à comprendre. Lorsque sa fureur s'éveille, il ne peut rien faire. Il sort de sa chambre. Il va voir Jeanne qui est dans sa chambre. Il lui crie: c'est toi qui es responsable de la mort de mes parents? Elle est surprise et lui dit:
bien sûr que non, tu ne dois pas croire à ça.
Il ne la croit pas, reste dans sa crise. Alors il se mêle des coups. Des coups comme ça de partout. Elle cherche à se défendre, plutôt à se protéger. Elle lui dit en pleurant:
je te jure que c'est faux. J'ai jamais voulu tuer tes parents, ni personne d'ailleurs.
Il continue à la battre comme un fou.
Elle ne cherche qu'à protéger son visage. Il est tellement furieux qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Elle lui demande: mais pourquoi est-ce que tu crois? Ne crois pas. Arrête.
Il lui dit: je sais que c'est toi, salope. Il se comporte comme avant. Elle lui dit: et puis j'ai la photographie du papier du garagiste qui, avant l'accident, a fait réviser la voiture. Et c'est toi qui as payé avec un chèque important le garagiste. Elle lui crie:
ça ne veut rien dire.
Il lui crie: je te déteste.
Non.
Elle lui dit: eh bien, dis-moi tout.
Elle lui dit: tu ne me croiras pas.
Il se sauve en courant. La secrétaire qui était dans les escaliers l'empêche avec les domestiques de sortir. Lâchez-moi. Elle lui dit:
vous n'allez pas quitter votre grand-mère qui est au plus mal. Si vous la quittez, ce sera terrible pour elle.
Il lui crie: je m'en moque. Il se débat et s'endort en prise. Malheureusement, un domestique a eu le temps de lui faire une piqûre dans le bras. Et il est mené à sa chambre.
Lâchez-moi. Non. Lâchez-moi.
Et fermez la clé. Il se met à crier de rage.
Je veux sortir. Lâchez-moi.
Et s'endort sur le parquet. «
Jeanne est dans tous ses états et pleure dans sa chambre. La secrétaire raconte à David au téléphone ce qui s'est passé, la lettre qu'il a reçue, et lui dit « C'est sûrement le chauffeur qui a écrit la lettre, et puis la facture du garagiste, ça ne peut être que lui, vu qu'il a toutes les factures concernant les réparations de la voiture. » David lui dit « Mais si elle a créé l'accident avec l'aide du garagiste qui était chez elle, à cette époque, pourquoi a-t-elle gardé les factures ? Et pourquoi une facture si dangereuse ?» Elle lui dit « Peut-être pour montrer que la voiture a été révisée. » Il lui dit « Mais qui a été au courant qu'elle voulait tuer son fils ?» Albert dit à sa femme « J'étais en visite chez ma mère et par hasard j'ai entendu ma mère parler au garagiste. Je n'ai rien dit, mais j'ai pris la facture en me disant que ça pouvait servir un jour. Durant des années, je n'ai pas osé le faire. Puis je me suis dit que maintenant c'était maintenant ou jamais, que c'est le moment de me venger de ma mère. » Elle lui demande « Pourquoi a-t-elle voulu tuer son fils et sa femme ? » Il lui dit « Pour le pouvoir, elle a toujours été en retrait de partout. Pourtant, c'est elle qui a apporté dans sa corbeille de mariage ce qu'il fallait pour créer la société. Alors elle a voulu se venger de toutes ces humiliations qu'elle a eues durant toutes ces années. » Jeanne pleure et se dit qu'Adrien ne l'aime plus. Elle se dit « Dieu me punit de ce que j'ai fait !» soupire et pense. Comme la voiture était libre, elle a dit à son fils de prendre la voiture. Ça lui éviterait de prendre le train. Mais elle croyait que son fils allait laisser chez elle son petit-fils, comme il le faisait pour un long voyage. Malheureusement, ce matin-là, elle est restée un peu trop longtemps au lit. Elle n'a pas assisté au départ de son fils. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu avec horreur qu'ils avaient emmené le petit avec eux. Officiellement, lorsqu'elle a appris que c'était son fils et sa femme qui avaient pris la voiture, il était trop tard. Ils étaient déjà partis depuis des heures et l'accident avait déjà eu lieu. Ça a été terrible pour elle. Elle a été obligée d'essayer de jouer la femme éplorée. Mais elle voulait absolument que son fils meure parce qu'il aurait dévoilé des choses sur son père et qu'elle avait l'intention de l'éliminer. Très vite, on lui a apporté le bébé. Elle a été obligée de se remettre et de ne plus penser au passé pour s'occuper du petit et de son avenir. Albert, son fils, a cru, lui aussi, qu'il allait prendre la succession de son père, mais elle lui a dit que non. Alors Albert a quitté la maison furieux et s'est marié. Elle se dit qu'elle a dû cacher ce qu'il savait. En se disant que ça pourrait servir plus tard. Elle déteste Albert. Oui, il a dû cacher ce qu'il savait. Elle déteste Albert. Elle a tout fait pour que son petit-fils la remplace plus tard et pour réparer ce qu'elle a fait. Puis, elle a pris l'habitude de s'occuper du petit. Et même en se disant que les choses étaient mieux ainsi parce que ses parents ne l'auraient pas autant aimé qu'elle et qu'ils l'auraient mis en pension et qu'ils ne l'auraient jamais vue. Ça la rend malade qu'Adrien ne l'aime plus et même la déteste. Elle se dit qu'elle est punie de ce qu'elle a fait. Elle entre dans une grande mélancolie. Adrien, de son côté, est bien surveillé et on ne lui donne que des calmants. David se demande s'il ne faudrait pas tuer le chauffeur. Non, parce qu'Albert en mettrait quelqu'un d'autre à sa place pour espionner. Adrien, lorsqu'il est conscient dans son lit, se demande pourquoi cette nouvelle lui a fait tant de peine. Ça ne le concerne pas, puisqu'il n'est pas en réalité Adrien mais Cyril, mais se dit qu'il aime bien la grand-mère, et si elle a fait quelque chose de mal, ça lui fait mal.
Jean le fait venir dans sa chambre. Il va malgré tout parce qu'il est mené par la secrétaire.
Entrez.
Il la fait entrer dans la pièce et les laisse. Il voit Jean dans son lit, maigre, les cheveux défaits, souffrante. Il en est attristé malgré lui. Elle lui dit
« Approche-toi et écoute. »
Il s'approche timidement et écoute. Jean lui dit
« Voilà, la mort de tes parents était vraiment un accident. » Puisque la chose n'était pas pour eux.
Elle lui parle de son mari, un être ignoble, qui la traitait très mal. Lui avait tout pris et avait des maîtresses, et s'était très mal comporté pendant la guerre. Il a même dénoncé sa femme de chambre comme étant juive, et qu'elle était morte à cause de lui dans un camp. Elle lui dit aussi,
« Je lui en ai toujours voulu de ce qu'il a fait à cette pauvre femme. Alors, lorsque j'ai appris qu'il voulait divorcer et se marier avec une fille plus riche que moi, 30 ans plus jeune que lui, il m'a rejetée parce que j'étais plus vieille et qu'il avait dilapidé tout mon argent, que j'étais plus bonne à rien pour lui. Lorsque j'ai appris tout ça, le vase a débordé. J'en avais assez de ces humiliations, j'ai voulu le tuer. Comme il devait partir en Allemagne en voiture, j'ai fait trafiquer la voiture. Et malheureusement, il y a eu un changement. Lui a pris l'avion et vous la voiture pour rentrer chez vous. Des parents qui étaient venus pour rendre visite pour un séjour d'une semaine. La voiture de ton père est tombée en panne. Il n'a pas pu la prendre et devait partir de suite. Ton père n'a pas pu attendre le garagiste. Alors, mon mari m'a dit de prendre sa voiture et qu'il allait prendre l'avion. Je ne savais rien de tout ça. Vous étiez tous partis très tôt. Je dormais encore. Lorsque j'ai vu la voiture de tes parents devant la maison, je me suis demandé ce qu'ils étaient passés. Le domestique me l'a dit. J'ai paniqué. J'ai eu très peur. J'étais comme folle. J'ai passé une journée terrible en me sentant coupable. Puis dans la soirée, j'ai appris la chose horrible. J'étais horrifiée de ce que je venais de faire. Je voulais mourir. Je me disais que Dieu me punissait parce que j'avais péché. J'avais décidé de me donner la mort. Et puis, Lorsqu'on t'a ramené, parce que j'étais ta seule famille, je t'ai vu petite chose sans défense. Je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de toi. Je l'ai fait avec amour. Tu ne peux pas savoir. Je n'aimais que toi. Même mon fils Albert ne comptait plus. Tes parents ont été enterrés. Mais le remords était toujours là, mais tu étais là. Un mois plus tard, mon mari, qui, malgré le drame, me parlait de divorce, je ne lui répondais pas. Il n'était plus rien pour moi. J'étais prêt à tout pour quitter et vivre seul avec toi. Tu étais devenu mon seul amour, le seul but de ma vie. Il est mort d'une crise cardiaque. Je dois avouer que j'étais heureuse d'être libérée de cet homme qui m'avait empoisonné ma vie. Le temps est passé. Comme héritière de mon mari, j'étais obligée de m'occuper de ses affaires. Les affaires du groupe se sont remises à bien marcher. Je croyais que mon fils Albert pouvait m'aider. Mais j'ai vite compris que c'était impossible. Il était trop colérique, orgueilleux. Ne cherchait pas à connaître les choses. Je lui ai fait comprendre que c'était toi qui dirigerais les affaires. Ça l'a humilié, lui et sa femme. Il m'en a voulu à mort. Il m'a dit qu'il était mon fils et qu'il allait se venger. Il savait que la voiture, c'était moi qui avais fait trafiquer et qui avait entendu donner des ordres et bien payer le garagiste. Je m'en moquais et ne savais, et le savais trop large pour me dénoncer. Dénoncer sa mère, c'était trop mal vu. Alors il n'a rien dit. Mais il me faisait constamment des réflexions sur toi. Il est vrai que tu devenais un enfant au caractère difficile et faisais des caprices terribles. En plus, tu parlais très peu, à part lorsque tu étais en colère. Pour moi, pour te calmer, j'y arrivais. Puis, lorsque tu grandissais, malgré ton caractère, tu es resté le même. Mais en plus, tu avais la folie des voitures. Et dès que tu pouvais, tu en volais une pour rouler au hasard. J'étais obligé d'aller te faire chercher. Une de tes dernières fugues, tu as fait quelque chose de terrible. Je t'ai tout pardonné du moment que tu étais près de moi. Je t'ai même mis sur mon testament comme l'héritier de mes affaires. Voilà. J'ai fait ça ni par remords, ni pour me faire pardonner, ni par amour pour toi. Voilà, je t'ai tout dit.
Pour qu'Adrien puisse lui pardonner, elle a inventé cette histoire, mais elle a voulu qu'elle soit le plus réelle possible. Donc elle était obligée, malgré tout, de lui dire qu'elle était coupable d'avoir trafiqué la voiture et qu'elle voulait la mort de son mari. Mais elle a fait ça sans se rendre compte qu'Adrien pourrait voir qu'elle ment en voyant la date du décès de son mari, que son mari est mort avant les parents d'Adrien. Mais elle a dit le contraire. Heureusement pour Adrien, heureusement pour elle, Adrien, disons, officiellement a perdu la mémoire, mais en plus Adrien croit être Cyril. Adrien est ému, à honte, parce qu'il se dit qu'elle croit qu'il est Adrien. Malheureusement, il n'est qu'un imposteur qui s'appelle Cyril. Il n'a pas le droit de lui pardonner, ni de lui en vouloir, ni de l'accuser. Elle lui demande
« Tu me pardonnes ?»
Il lui répond « Oui ». Elle est heureuse et lui dit « Tout ce que je t'ai dit, il faut le garder secret. Personne ne doit savoir pour le trafic de la voiture et que je voulais la mort de mon mari. Tu comprends? J'avais de gros ennuis. Tout ça, c'est sûrement Albert qui a dévoilé ces choses. Il est tellement jaloux de toi. Tu dois faire attention à lui. » Et lui oui, il faut faire attention à lui. Lui se dit que ce doit être David qui a dû apprendre cette histoire. Adrien, quelque chose le pousse à le faire. Il a les larmes aux yeux, il se met à genoux, lui demande pardon. Il lui dit tout, son histoire, l'histoire de Cyril, bien entendu pas celle d'Adrien, qui n'est pas Adrien. Il parle aussi qui n'est pas son petit-fils. Il lui a déjà raconté ça, mais elle, à cause de sa maladie, l'a complètement oublié. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est une chose horrible.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.